Breuvages magiques, substances dangereuses ou médicamenteuses, les poisons sont capables de tuer ou de soigner. Tout dépend, entre autres, de la dose de ces substances toxiques provenant des animaux, des plantes ou des minéraux. Vénéneux ou venimeux, les poisons sont étudiés par les hommes depuis maintenant la nuit des temps et le musée des Confluences à Lyon propose depuis le 15 avril l'exposition donc Vénénum pour partir à la découverte des mondes empoisonnés. La Tête au Carré lui consacre son dossier dans un instant avec mes invités et vos questions. Vous nous rejoignez en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
Et à la une de la science, aujourd'hui, des traces d'ADN préhistorique retrouvées dans des grottes et qui pourraient donner un sacré coup de pouce à la paléontologie.
Et oui, car grâce à cette nouvelle technique d'analyse, les chercheurs pourraient se passer d'ossements pour traquer l'ADN de nos ancêtres. Une petite révolution dont on discute avec Antoine Balzo du Muséum National d'Histoire Naturelle tout de suite.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette Tête au Carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Vénénum, un monde empoisonné, c'est donc l'exposition à voir en ce moment si vous êtes lyonnais au musée des Confluences. Et pour nous guider dans l'exploration des substances toxiques, je suis avec la biologiste Franceline Marano et l'anthropologue Julien Bondaz. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Franceline Marano. Qu'est-ce qui fait la toxicité d'une substance? Est-ce que c'est vraiment toujours la dose ou pas, ou les choses changent?
Ah, les choses changent. Ouais. L'idée que la dose fait le poison, qui vient de Paracelse, c'est-à-dire près du Moyen-Âge, hein, quasiment, bon, c'était au XVIe siècle, un petit peu plus tard que le Moyen-Âge. On la remet en question maintenant, puisqu'on sait, par exemple, à travers les perturbateurs endocriniens, que des substances qui ne sont pas des poisons immédiats, mais qui peuvent avoir des effets importants, eh bien, l'on a des concentrations qui sont nettement inférieures à la dose qu'on repère pour la toxicité aiguë.
Julien Bondaz, alors là c'est à l'anthropologue que je m'adresse, hein. Pourquoi est-ce que les poisons ont toujours fait peur à l'humanité? C'est vraiment une constante hein, quand on regarde l'histoire.
Oui tout à fait, c'est une peur universelle, en même temps qu'une fascination, hein. c'est ça qui est intéressant aussi. Ça s'explique par des connaissances toxicologiques qu'on retrouve dans toutes les sociétés à travers le monde, et ça s'explique aussi par le fait que, précisément pour ces questions de dose, les substances peuvent basculer du côté de la dangerosité dans certains cas, dans d'autres au contraire elles peuvent servir à soigner certaines maladies, et on a affaire à des substances qui sont finalement difficilement classables, qui sont incertaines. On ne sait pas dans quelle catégorie les mettre, du côté des plantes comestibles, ou au contraire du côté des dangers pour les humains, ce qui explique cette fascination et en même temps cette peur, cette méfiance assez universelle.
Ouais. Et on le voit toujours aujourd'hui d'ailleurs avec l'air que nous respirons, avec les nombreux produits toxiques, avec les aliments que nous ingérons. On aura l'occasion d'en reparler avec vous dans un instant, avec donc également l'éclairage de l'histoire et de l'anthropologie et les messages des auditeurs qui nous rejoignent pour parler poison sur franceinter.fr. À tout à l'heure. La paléontologie a longtemps été une science tributaire de la découverte de fossiles pour faire des avancées, mais une étude d'un genre nouveau, publiée la semaine dernière dans la revue Science, pourrait bien changer la donne, puisque des chercheurs allemands montrent qu'il est désormais possible d'extraire de l'ADN animal et surtout néandertalien directement en analysant les sédiments retrouvés dans le sol de différentes grottes européennes. Antoine Balzo est au téléphone avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'homme de Néandertal. Encore du nouveau donc, Antoine Balzo, grâce au séquençage de plus en plus facile apparemment de l'ADN ancien. Qu'est-ce que vous pensez de ces travaux? C'est vraiment une avancée pour vous dans la méthodologie?
La technique elle-même est assez extraordinaire. Ce sont des progrès méthodologiques importants qui vont donner de nouvelles informations pour mieux comprendre les sites. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment utile. Notez quand même qu'on n'arrivera pas à se passer complètement de fossiles. Il y aura toujours du travail à faire sur les découvertes osseuses que l'on peut faire.
Alors Antoine Balzo, en quoi consiste précisément cette technique nouvelle?
En fait, le principe technique, c'est le même que celui d'avant du séquençage génétique. À part que là, l'approche a été inverse. Plutôt que de se concentrer sur des objets où l'on sait qu'il y a potentiellement de l'ADN et essayer d'en identifier beaucoup et des longues séquences, leur approche a été de prendre des sédiments et de voir s'il y avait des traces à l'intérieur. Évidemment, quand ils trouvent de l'ADN dans ces sédiments, ce sont des fragments très petits, des morceaux très réduits et uniquement de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire celui qui est le plus fréquent dans le corps. L'ADN nucléaire, il n'y en a qu'une copie, des mitochondries, il y en a énormément. dans chaque cellule, et ça permet comme ça de multiplier la possibilité de trouver des informations.
Alors, on a souvent expliqué que même dans les eaux, l'ADN était très mal conservé, c'était rare d'en trouver. Comment ça se fait qu'il se conserve dans les sols directement ?
En fait, il y a deux niveaux de conservation possibles. Il y a la présence et puis l'état de conservation. Dans les eaux, on en retrouve, quand on a de la chance, des petites traces, des morceaux plus ou moins longs. Les sédiments, c'est la même chose. Ça va être dans les mêmes contacts, c'est-à-dire sur des gisements où potentiellement on peut supposer qu'il y a une conservation relativement bonne. Eh ben, on va pouvoir retrouver ces traces d'ADN. Mais vraiment, c'est en ciblant sur des choses que l'on peut reconnaître aisément, donc plutôt des mitochondries et plutôt des séquences génétiques très identifiables des espèces humaines qui vont permettre de voir la présence. Et là, le propos, ça va pas être d'essayer d'extraire un ensemble d'informations biologiques, comme connaître la couleur de peau, essayer d'identifier des gènes qui ont un rôle fonctionnel, mais simplement s'assurer qu'il y a eu le passage d'un homme préhistorique à cet endroit-là.
Ce qui est déjà pas mal, hein, en soi.
C'est beaucoup, ça apporte énormément d'informations et puis c'est un réel potentiel aussi. La limite, c'est qu'on ne peut pas savoir combien d'individus sont passés, peut-être plusieurs à la limite s'il y a plusieurs ADN mitochondriaux différents. Ça va pas révolutionner la connaissance du site si on a déjà des informations. Par contre, le potentiel pour essayer de documenter des zones qu'on ne connaissait pas est vraiment très très grand.
Ouais, mais c'est un hasard pour les scientifiques d'avoir trouvé cet ADN dans la poussière, on pourrait dire quasiment Antoine Balzo, ou est-ce qu'ils vraiment ils avaient de bonnes chances d'en retrouver ?
De la chance, il y en avait, donc ils en ont retrouvé, mais je crois que c'est aussi un objectif de ce laboratoire de faire des développements méthodologiques et d'essayer de nouvelles technologies et d'aller plus loin dans la compréhension des sites. Il y a peu, ils avaient développé tous les outils de paléoprotéomique où l'idée était de reconnaître d'autres nucléotides, d'autres éléments au milieu des eaux et ainsi arriver à mieux identifier un reste animal, même quand il y avait une dégradation très très forte de l'ADN. Bah là, on est un petit peu dans la même veine. L'objectif, c'est de documenter encore mieux les gisements archéologiques.
Alors là, toutes ces traces ont été trouvées dans des grottes déjà connues, des sites déjà fouillés. Est-ce que ça vaut le coup maintenant d'aller chercher ailleurs, dans des endroits apparemment vierges, par exemple ?
Il y a différents types d'applications vraiment à potentiel très important de cette technologie-là. Ça va être de documenter de la présence humaine dans des zones où on ne le sait pas. Par exemple, là, c'était des sites archéologiques de grottes où il y avait plein de restes. Mais l'objectif, ça pourrait être aussi de faire la même chose dans des sites de plein air, où il y a peu d'outils, peu d'objets, et on pourrait essayer de voir si l'homme est passé par là. Et puis surtout, le potentiel immense de cette technologie-là, ça va être de renseigner qui était présent dans des sites sur lesquels on a encore des doutes. Et c'est le cas, par exemple, des sites où on trouve des industries qu'on dit de transition, comme le Châtel Péronien, où par définition, on avait proposé que c'était Homo sapiens qui l'avait fabriqué. Et finalement, on n'en sait pas trop. On pense même plutôt que c'était Néandertal qui le faisait. Mais pour clore définitivement le débat, une telle technique, en l'appliquant sur tous les sites où on a des niveaux où il n'y a que l'outillage et pas de restes humains, permettrait de mieux savoir si c'est Néandertal ou sapiens. Et puis l'autre région aussi à potentiel énorme, c'est tout ce qui est à l'est de l'Europe, sur des milliers de kilomètres jusqu'à la Chine presque, où on a des sites qui ont quelques dizaines de milliers d'années, une industrie qu'on appelle le moustérien, qui était l'industrie à la fois des Néandertaliens et d'Homo sapiens, mais pour beaucoup de gisements comme ça, très à l'est, on n'a pas trouvé de restes humains. Et si on arrive à cartographier les différents hommes qui ont pu exister, on va vraiment améliorer notre connaissance de la distribution humaine dans les temps passés.
Alors là, cette étude, c'est un peu une preuve de concept, mais est-ce qu'elle apporte déjà des éléments nouveaux par rapport à l'histoire d'Homo sapiens et de Néandertal en Europe ?
Cette étude-là en elle-même, pas trop, dans le sens où c'est une validation d'une méthodologie. Il y a quand même un intérêt pour un des gisements qui a été analysé. Déjà, ils ont essayé de tester dans des sites très très anciens pour voir si ça fonctionnait, même jusqu'au site de Totavel qui ont 400 000 ans.
Et
là, ils n'ont pas trouvé de traces d'ADN. Ce qui en soi est pas une surprise, mais pourquoi pas, ça valait le coup de tenter. L'information scientifique qui a été apportée et concerne le site de Denisova, ce fameux gisement où on trouve mélangé des Denisoviens et des Néandertaliens, mais qui est un site très très complexe, avec de nombreuses couches qui sont difficiles à bien comprendre. Là, ils ont étudié des niveaux plus anciens que ceux où il y avait les restes humains, où pour le moment il n'y a que des restes archéologiques, et ils ont pu reconnaître des occupations plus anciennes des Denisoviens et des Néandertaliens, ce qui montre qu'il y a vraiment eu un millefeuille d'occupation dans ce gisement-là, qui est situé très très à l'est, il est en Russie, oui. Ce site.
Vous pouvez nous rappeler qui sont les Denisoviens très rapidement?
En fait, je pourrais pas, puisqu'on ne sait toujours pas ce que sont les Denisoviens. C'est en ça que, par exemple, les os vont toujours être utiles. Les Denisoviens, on ne les connaît que sur leur ADN. Dans quelques restes dont on n'arrive pas à reconnaître l'anatomie, parce que ce sont des ossements ou des dents qui sont vraiment qui sont peu caractéristiques, a été retrouvé un ADN qui est différent à la fois des Néandertaliens et d'Homo sapiens. Donc il a été proposé que ce soit un nouveau groupe humain, mais que pour le moment on ne connaît pas d'un point de vue biologique. D'où l'intérêt de trouver des ossements, on l'espère bientôt, pour savoir réellement à quoi ils ressemblaient.
Merci beaucoup en tout cas Antoine Balzo pour votre éclairage, suite donc à cette publication dans Science la semaine dernière, qui nous apprend qu'on peut maintenant trouver de l'ADN dans les sédiments de ces grottes préhistoriques, ce qui permet de compléter la façon dont on travaille justement sur nos ancêtres. Merci à vous, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Qui était Néandertal ?», l'enquête illustrée, c'est chez Belin, avec Emmanuel Roudier. Merci beaucoup Antoine Balzo.
Merci, au revoir.
À demain Axel, bonne journée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la montée des eaux due au réchauffement climatique qui s'accélère. Pour la première fois, une équipe franco-suisse démontre qu'entre 2004 et 2015, le niveau des océans a grimpé 25% plus vite que les 10 années précédentes. Une démonstration qui a été difficile à obtenir car le satellite Topex Poséidon, qui mesure depuis 92 le niveau des eaux, était défectueux. Il a donc fallu d'abord prouver que l'appareil franco-américain ajoutait artificiellement 1 mm pour enfin réconcilier les données issues de la fonte des glaces avec les données altimétriques. Un soulagement pour la cohérence des résultats scientifiques, mais bien sûr donc une mauvaise nouvelle pour la planète. En présence de prédateurs, les baleineaux chuchotent pour ne pas se faire repérer en enregistrant le chant des baleines à bosse dans le golfe d'Exmouth en Australie. Les océanographes danois ont fait une découverte étonnante. Pendant que les baleines adultes vocalisent à tue-tête de longs cris fantomatiques, les jeunes tout à fait capables des mêmes prouesses restent pourtant très discrets et communiquent avec leurs parents en utilisant des vocalisations à faible niveau. Une précaution que les auteurs expliquent par la présence de nombreuses orques dans cette zone aquatique, des chasseuses hors pair effrayantes justement des petits baleineaux. Et puis pour terminer, donc attention aux clochettes du 1er mai, les fleurs de muguet seraient responsables de 2% des intoxications annuelles dues à des plantes. Sous ces airs frais et printaniers, toutes les parties de la plante contiennent de la convalatoxine qui est toxique en cas d'ingestion. Comme le rappelle le centre antipoison de Lille, quelques milligrammes de cette toxine peuvent suffire à initier une réaction. Les symptômes sont d'abord une irritation de la bouche, les douleurs abdominales, ensuite des nausées, des diarrhées et des vomissements. Ne laissez donc ni vos enfants ni vos animaux de compagnie jouer avec les fleurs ou l'eau du vase de ces bouquets donc que vous êtes nombreux à vous offrir en ce moment. Et justement, les poisons, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
On sort en trombe, en nombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, Emmanouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans et limé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60. Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous, on prend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage. Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui font une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché la skate, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville. laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en irruption spontanée.
Éruption, Gaël Faye à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Venenum, un monde empoisonné en ce premier mai. Eh bien, c'est une exposition qui est à voir à Lyon, au musée des Confluences. Et c'est l'objet de notre émission cet après-midi avec mes invités Franceline Marano et Julien Bondaz. Franceline Marano, vous êtes professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à Paris Diderot. Et vous avez été nommée au Conseil de santé publique où vous êtes vice-présidente de la commission spécialisée sur les risques liés à l'environnement. Il y a beaucoup de questions à aborder rien que sur ce thème, évidemment. On va donc parler avec vous des poisons liés à la santé et à l'environnement. C'est d'ailleurs le titre d'un livre « Toxique, santé et environnement ». De l'alerte à la décision qui est paru en 2015 chez Buchet-Chastel. Et puis plus récemment, faut-il avoir peur des nanos ? Là aussi, hein, sujet d'interrogation sur la toxicité, livre qui est sorti l'année dernière. Julien Bondaz, c'est votre regard d'anthropologue qui nous intéresse cet après-midi pour parler des poisons. Vous êtes maître de conférence à l'université Lumière Lyon 2. Vous êtes dans quel laboratoire exactement ?
Au laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains, le LADEC.
Voilà. Et vos travaux portent notamment sur les sociétés ouest-africaines. Et avec Julien Bonhomme, vous allez publier à la rentrée un livre consacré à une affaire de cadeaux empoisonnés qui s'appelle « L'offrande de la mort ». De quoi il s'agit exactement ?
Il s'agit d'une rumeur qu'on a étudiée ensemble au Sénégal, de dons religieux à destination des mendiants, mais de dons qui cache un sacrifice humain. Donc, c'est une thématique classique en anthropologie, le cadeau empoisonné, c'est un cadeau mortel.
Voilà, donc il faudra attendre la rentrée au CNRS édition pour lire cette affaire d'offrande de la mort avec les questions des auditeurs donc, qui nous rejoignent en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Franceline Marano, de quelle partie vous êtes occupée exactement pour l'exposition de Lyon là ?
Plutôt des poisons diffus ou bien des poisons qu'on peut utiliser depuis très longtemps sans savoir qu'ils sont des poisons comme les métaux et dont on a découvert la toxicité qui est une toxicité sur le long terme, des faibles doses qui s'accumulent et qui conduisent à des maladies graves, voire mortelles, des empoisonnements, hein, ouais. Voire mortels. C'est plutôt cette partie plus les poisons modernes, c'est-à-dire les polluants de l'environnement qui sont associés à la chimie, au développement de la chimie et surtout au développement des activités humaines à partir de la fin du 19e siècle, l'industrialisation et puis notre monde contemporain avec tous ces produits chimiques notre environnement.
Quand on fait le tour des substances, on se dit mais qu'on baigne en permanence dans une soupe toxique, effrayante quand même, non ?
Oui, c'est vrai.
Heureusement, on a une bonne capacité de le supporter quand même.
C'est vrai qu'on baigne dans une soupe, en particulier l'air qu'on respire contient un certain nombre de polluants. L'eau, elle est plutôt bonne. Hein. L'eau dans nos pays, elle est bonne. Par contre, dans les pays en développement,
il y a 2 milliards, plus de 2 milliards de personnes.
Absolument catastrophique.
Qui n'ont pas d'eau potable. Oui.
Avec non seulement là, des polluants chimiques, mais surtout aussi des micro-organismes, bien sûr, qui eux aussi sécrètent des substances toxiques.
Ouais. Hein. Ce qui est très insidieux d'ailleurs dans ces poisons qui nous environnent en permanence, c'est que leurs effets se font à très très long terme. On n'est pas empoisonné immédiatement.
Oui, c'est la différence avec les poisons aigus, ceux qu'on a en fait appris à connaître sans doute dès la préhistoire. Hein. L'homme, à travers une expérience de l'environnement ou avec des essais, sans doute essais qui conduisaient malencontreux.
Voilà. Mais ça fait de la science sans savoir.
Il se rendait compte qu'il y avait des plantes toxiques, des animaux toxiques. Et c'est là qu'on peut faire d'ailleurs une différence entre vénéneux et venimeux.
Alors ça, c'est très intéressant, oui, parce que très souvent, on a l'impression qu'on peut classifier les choses comme ça. D'un côté, les animaux, et puis de l'autre côté, les plantes. Et on voit qu'il faut y mettre plus de nuances. Hein.
Absolument. Alors, les animaux venimeux, ce sont des animaux qui, de façon active, en produisant donc une substance toxique, un venin, vont pouvoir l'inoculer. Donc c'est à des fins de destruction d'un autre organisme,
directement.
Pour se nouer directement. Donc ils agissent sur l'organisme par morsure, bon c'est le serpent bien sûr, par piqûre, c'est la guêpe. Ça on le sait bien, mais il y a aussi d'autres animaux venimeux qu'on connaît moins bien, par exemple des poissons qui peuvent être venimeux et donc qui aussi agissent par injection. Et puis vous avez
des animaux vénéneux aussi, on peut en trouver alors.
Ah oui, il y a des animaux vénéneux, c'est-à-dire que donc dans le sous le vocable vénéneux, on met en fait un autre sens, c'est-à-dire que l'animal, la plante donc fabrique une substance, mais donc ça n'est pas volontaire l'inoculation. En fait, c'est parce qu'on va toucher l'animal, c'est le contact, ou bien on va ingérer la plante. Ça peut être aussi des micro-organismes qui fabriquent des substances toxiques, des toxines, et qu'on va ensuite ingérer et qui peuvent rendre l'organisme qui les a ingérés, que ce soit un homme ou un animal, extrêmement malade. C'est le cas de ce qui se passe, par exemple, quand vous mangez des moules ou des huîtres, quand on sait qu'il il ne faut pas, parce que c'est en général détecté, ça, ce sont des toxines que la moule ou l'huître absorbe avec une algue, qui provoque cela. C'est pas l'algue elle-même, donc ce n'est pas la moule ou l'huître qui est responsable directement de cela.
Voilà. Donc on sait maintenant qu'il y a des animaux vénéneux.
Voilà.
C'est au moins une des choses qu'on apprendra directement en arrivant à l'exposition. Julien Bondazou, quelle a été votre contribution justement en tant qu'anthropologue? Et qu'est-ce que vous étudiez, vous, entre les sociétés et les poisons?
Oui, alors ma contribution, ça a été de montrer le caractère universel des connaissances toxicologiques, mais en même temps la grande variété des usages des poisons à travers le monde, avec des grandes tendances, des usages guerriers, des usages cinégétiques en rapport avec la chasse, des usages aussi rituels, et puis des usages aussi en matière judiciaire. Et donc, c'est toute cette partie sur les usages des poisons, qui est la troisième partie de l'exposition, qui a concentré mon attention.
Ouais. Et on arrive d'ailleurs dans l'exposition avec la pomme rouge de Blanche-Neige. Hein. C'est là-dessus qu'on est invité à découvrir ce monde empoisonné.
Absolument, oui. La pomme rouge qui introduit l'exposition et avec une vraiment belle muséographie. Et puis, comme à la fin de l'exposition, il y a les poisons modernes, c'est-à-dire les polluants de l'environnement, eh bien, le fait qu'on traite aussi les pommes avec toutes sortes de substances chimiques, malheureusement.
Ouais. Alors, ce sous-titre, justement, Un monde empoisonné, Julien Bondaz, c'est un petit peu angoissant quand même, mais en même temps, ça résume ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce lien ancestral des hommes avec ce monde des poisons et cette conscience quand même d'être entouré par une nature qui peut être dangereuse.
Oui, tout à fait. En fait, on pourrait dire plutôt des mondes empoisonnés parce que c'est bien aussi la question de la manière dont on se représente notre environnement qui rentre en ligne de compte et toutes les sociétés se représentent leur environnement de manière différente. Mais c'est l'idée que toutes les sociétés sont allées chercher dans leur environnement un certain nombre de substances naturelles pour les transformer en poison. C'est la question vraiment de... Le poison pose la question du passage de la nature à la culture, du poison naturel au poison artificiel, pose la question aussi d'un certain type de cuisine qui n'est pas la cuisine ordinaire, mais qui consiste à préparer des substances toxique pour les humains et qu'on peut utiliser dans différents buts.
Alors, dans cette histoire justement des poisons, qui est donc abordée sous différents aspects, on le comprend bien avec vous, il y a par exemple les grandes et célèbres femmes empoisonneuses. Pour illustrer justement ce sujet, L'affaire des poisons, c'est un film qui était sorti sur les écrans en 1955, réalisé par Henri Decoing, avec ce scénario qui s'inspire directement d'une célèbre affaire des poisons qui a défrayé la chronique à la fin des années 1670 et qui mettait en scène Catherine Dey, dite Lavoisin. Dans ce film, il y a Daniel Darieux, c'est un petit coucou pour ses 100 ans aujourd'hui, et l'actrice Viviane Romance.
Affaire Voisin. Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés dans cette salle pour juger la femme Voisin, accusée de plus abject des crimes, empoisonnement à l'arsenic.
Entière d'arsenic blanc, j'ai dit arsenic blanc. Entière d'antimoine gris. Et le troisième tiers qui efface les traces de deux autres.
Vous savez sans doute ce que contenait la coupe que vous avez présentée à Mademoiselle de Fontange.
Du vin de muscat, je crois. Chaque répétition, je trouvais la coupe déjà prête, le vin déjà versé.
Versé par qui?
Mais répondez, voyons, défendez-vous.
Comment prouver mon innocence?
Voilà, au XVIIe siècle, donc, l'affaire des poisons, Julien Bondaz. Alors, c'est vrai qu'on retrouve des femmes à toutes les époques, hein, qui ont vraiment été de célèbres empoisonneuses.
Effectivement, oui, c'est cette figure classique de l'empoisonneuse, qui est en fait d'autant plus intéressante que dans les faits, le crime de poison était autant masculin que féminin. Donc, ça renseigne moins sur une tendance à un crime spécifiquement féminin.
Pourquoi on a mis les femmes en avant, alors, dans ces cas-là, si les torts étaient partagé entre les deux sexes?
Pour des raisons, de représentation de la femme, et c'est plus une projection hein, de ce que les hommes imaginent être le pouvoir des femmes. C'est vrai que un des enjeux de ces questions de poison, c'est de manière universelle là encore, c'est la maîtrise de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme. Et il y a une tendance universelle à ce que ça soit les femmes qui préparent à manger pour les hommes, de manière classique. Et donc la cuisine est plutôt une affaire de femmes, et la crainte de manger quelque chose empoisonné, ça interroge très bien les relations entre les hommes et les femmes et les inégalités hommes-femmes aussi.
Ouais. Allez, encore un exemple là-dessus justement avec Astérix et Cléopâtre, goûteur.
Un cadeau pour vous, ô ma reine.
Qu'il entre.
Les trois Gaulois offrent ce gâteau à la reine des reines.
Comme c'est aimable à eux, tu les remercieras de la part de Cléopâtre, mon goûteur, que l'on appelle mon goûteur.
Voilà, voilà, voilà.
Goûte, goûteur.
Avec joie, ô ma reine. Oula, 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 oula.
Voilà, quelques effets du poison, Astérix et Cléopâtre, voilà, pour illustrer ce sujet. Alors, sur les empoisonneuses ou les empoisonnés, EES célèbres, évidemment. Du côté des hommes, Franceline Marano, même si on a empoisonné de la même manière que les femmes, visiblement, on a utilisé les poisons sous des formes destructrices massives aussi, hein.
Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est l'avènement de la chimie moderne, en quelque sorte, à la fin du 19e siècle, avec les recherches sur les gaz de combat. Mmh. Et là, ce ne sont pas des poisons naturels, ceux qu'on évoquait, là, qu'on trouve chez les plantes, chez les animaux.
On fait appel à la chimie, là,
on fait appel à la chimie. Et une chimie à visée de destruction massive. Et le premier gaz de combat qu'on a utilisé pendant donc la Première Guerre mondiale, qui est l'hypérite, hein, le gaz moutarde, ça a été fabriqué par des chimistes allemands à la fin du 19e siècle. Et donc ce sont des hommes là qui sont intervenus pour faire mourir des populations de façon massive. Enfin là, c'était bien sûr pendant la guerre, dans les tranchées.
Ouais. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui.
Des effets effrayants, absolument.
Voit aujourd'hui avec la Syrie encore. Voilà. Exemple qui est évoqué d'ailleurs aussi dans l'exposition.
Absolument. Alors, il n'y a pas que le gaz moutarde. Il y a eu ensuite d'autres gaz de combat qui ont été développés, en particulier ce qu'on appelle les organophosphorée. Le gaz sarin, c'est un organophosphoré. Alors, il y a des insecticides qui présentent les mêmes effets sur les insectes. Mais là encore, on va faire en sorte, quand il s'agit d'utilisation insecticide, que la dose faisant le poison, que ça soit limité et que ça ne soit...
À l'application pour la plante et non pas évidemment aux effets délétères pour l'homme.
L'insecte, mais c'est le même type d'effet. Les organophosphorés agissent sur le fonctionnement cérébral. Et donc, le gaz sarin, le xylon B, c'était des gaz de combat qui agissent par les mêmes mécanismes que ceux qu'on va retrouver aussi dans l'utilisation insecticide.
Justement, Jean-Paul demande sur franceinter.fr pourquoi des fruits de plantes sont porteuses de poison et dangereuses pour l'homme et non pas pour les animaux. Alors, c'est une question de dose là aussi ou pas?
Ça peut être une question de dose, c'est une question un petit peu difficile. Ça dépend certainement du fruit en question. Et de l'animal qui va absorber ça. Alors effectivement, il y a sans doute des animaux qui ne vont pas absorber puisqu'il faut, il y a toute une digestion qui se fait et le passage donc au niveau digestif peut-être se fait différemment chez un animal ou chez l'homme. Et donc ça peut être une explication. Ça peut être aussi le fait que l'animal a dans son organisme des enzymes qui détruisent,
que l'humain lui ne possède pas,
que l'homme ne possède pas de la même façon.
Julien Bondaz.
Oui, à l'inverse, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a certaines substances toxiques qui sont mortelles pour les animaux et pas pour l'homme. C'est ce qui permet de consommer la viande des animaux qu'on chasse en utilisant des armes empoisonnées. Le poison dans l'animal, la cuisson peut l'éliminer, mais il y a aussi des poisons qui sont pas nocifs pour l'homme et qui le sont pour l'animal.
C'est donc dans les deux sens. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion. C'est au Musée des Confluences, cette exposition Venenum, et c'est à Lyon. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools, on his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time at all, this will be the dearest still pass. So says the dying man, once I'm in the box. Just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked. The homophobes, hipsters, and 1%. The false feminists he'd manage to detect. Them once he's left. Oh, in no time at all, this will be the dearest still pass. What he'd give for one more day. Dying man takes his final breath, but
first checks his news feed to see what he's about to miss. It occurs to him a little late in the game. We leave as clueless as we came. From the rented heavens to the shadows in the cave.
Ballad of the Dying Man, c'était Father John Misty.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait.
J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions.
Vous en avez trouvé une ?
Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en sortir avec Félix.
Voilà, extrait du film L'Armée des Ombres, ce film de Jean-Pierre Melville, sorti en 69, adapté du roman de Joseph Kessel avec la voix de Lino Ventura et Simone Signoret. Pour parler justement, Franceline Marano, d'un autre aspect aussi de l'histoire, ce sont ces capsules de cyanure, hein, ce poison que portaient les résistants en cas de capture par les nazis.
Oui, tout à fait. Et c'est un poison très violent, le cyanure, hein, là, qui est quasi immédiat, et qui bloque en fait toute la respiration. Hein. Et c'était une façon d'éviter de parler sous la torture. Et donc le cyanure était contenu dans des chatons de bagues qui pouvaient se basculer.
Absolument.
Mais il y avait ça aussi pendant la Renaissance, où il y avait des bagues de ce type aussi, avec des chatons qui contenaient des poisons. Alors du cyanure peut-être pas, mais des poisons aussi.
C'est ce qu'on apprend dans cette exposition Vénénum, donc au musée des Confluences en ce moment, à Lyon, pour découvrir ce monde empoisonné. Les questions des auditeurs. François nous dit ceci. À partir de quand les hommes ont-ils utilisé pour la première fois du poison pour équiper les flèches? Alors ça, c'est peut-être pour vous, Julien Bondaz, notre anthropologue.
Oui, c'est un usage qui date de la préhistoire, avant même en fait le recours aux pointes métalliques. On utilisait déjà le poison pour rendre plus efficace la chasse, puisque ça ne nécessite pas forcément de viser au bon endroit. Il suffit de toucher l'animal pour que l'animal meure.
Absolument.
Donc ça a un intérêt en termes d'efficacité.
Ouais. Cette pratique, vous l'étudiez toujours aujourd'hui, cette pratique de la chasse avec ces flèches empoisonnées?
Oui, il y a encore des études qui sont conduites sur ces pratiques-là, puisque c'est une chasse qui est encore pratiquée dans certains endroits, et notamment en Amazonie. Mais parce qu'il y a un autre intérêt à cette chasse-là, c'est une chasse silencieuse, contrairement au recours aux armes à feu. Et dans certains contextes, dans certains environnements, et notamment dans les forêts denses, la chasse silencieuse peut être un atout pour le chasseur. Oui.
Alors comment on procède justement avec ces fléchettes ou ces sarbacanes d'ailleurs aussi? On peut
utiliser
les mêmes manières.
Différentes techniques. Ce qui est intéressant, c'est que le recours aux armes empoisonnées c'est observé partout, hein, sur toute la planète, à l'exception notable d'ailleurs de l'Australie, parce que en Australie, ils ont plutôt développé la chasse au boomerang, qui est efficace également. Mais sinon, dans le reste du monde, on observe ces pratiques-là, la sarbacane. Les arbalètes aussi, mais surtout les arcs. La sarbacane est notamment utilisée en Amazonie, où l'un des poisons de flèche, les poisons sagittaires, les plus connus, le curare, a été très étudié. En fait, le curare, c'est un nom générique, il y a différents types de curare.
Donc il y a tout un tas de mixtures, en fait, qui sont utilisées
pour les poisons. Très variées, avec, en règle générale, le recours à des plantes du genre strychnos, auquel on ajoute différents végétaux et aussi des animaux, notamment des animaux venimeux, censés renforcer le pouvoir des morceaux d'animaux, hein, des têtes, etc. Censés renforcer le pouvoir du curare.
On peut frotter une grenouille, par exemple, sur une fléchette toxique.
Également, ça c'est une technique.
Ça peut fonctionner.
Effectivement, il y a des groupes amérindiens qui utilisent le suc toxique produit par les dendrobates, hein, des espèces de grenouilles qui sont utilisées aussi pour ce type de chasse.
Ouais. Est-ce que les hommes qui justement utilisent ces fléchettes, donc vous évoquiez l'Amazonie, mais pas seulement, hein, mm-hmm. est-ce qu'ils se battent aussi entre eux avec ces flèches empoisonnées ou est-ce que c'est exclusivement réservé à la chasse?
Non, alors là, il y a des variations, hein, mais c'est vrai que très souvent, c'est le cas, notamment en Amazonie, hein, on distingue les manières de faire la guerre et les manières de faire la chasse. C'est-à-dire mmh. qu'il y a de nombreux groupes amérindiens en Amazonie qui réservent strictement l'usage du poison pour la chasse.
Mmh. Donc il y a un code éthique.
Il y a une sorte d'éthique. Il ouais. Y a une sorte d'éthique dans la manière de faire la guerre qui s'est observée aussi dans les sociétés occidentales. Hein, c'est-à-dire que pendant tout le Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, jusque même à la Première Guerre mondiale, en fait. Le poison avait été les armes empoisonnées, on les connaissait hein, avant le Moyen Âge, elles étaient très utilisées, y compris en Europe. Mais l'idéal chevaleresque a effacé, a interdit en quelque sorte pour des raisons éthiques hein, le recours aux armes empoisonnées.
Ouais. Alors on voit également dans l'exposition les mythologies, les grandes légendes, où là on utilise aussi les substances toxiques à des fins, on pourrait dire, positives. Hein. Il y a les fameux filtres d'amour, par exemple, Tristan et Isolde, hein. On peut faire allusion évidemment à cette histoire, mais il y a aussi ces usages-là aussi qui sont très forts et qui perdurent d'ailleurs dans certaines cultures ou pas ?
Oui, ça c'est effectivement le titre de l'exposition, c'est à ça aussi que ça fait référence. C'est-à-dire Venenum, c'est pas seulement le poison, ça peut être aussi le médicament. Et donc, ce qui fait le poison, c'est pas seulement la dose, c'est aussi l'intention. Est-ce que l'intention est bénéfique ou maléfique ? Donc, on peut utiliser un certain nombre de substances à des fins, on va dire, de faciliter les relations amoureuses. C'est ouais. ce qu'on appelle les breuvages. D'amour, les filtres d'amour, effectivement. Ça s'explique par plusieurs points. Le premier, c'est que un certain nombre de substances à forte dose peuvent être toxiques et à faible dose peuvent être aphrodisiaques. Mm-hmm. Donc il y a ces effets-là, entre autres effets hein, de l'usage de certaines plantes. Et puis ça s'explique aussi par le fait que ce qu'on ressent dans le cas d'un sentiment amoureux, c'est aussi une accélération du flux sanguin, un débattement de cœur, etc. Il y a quelque chose de
symptômes. Physiologiquement, voilà. C'est ça.
Il y a quelque chose de curieux qui se passe. Qui peut faire penser à...
Ouais. Mais citez-nous l'exemple du Burkina Faso, parce que vous avez travaillé justement sur l'usage aussi de filtres amoureux, on pourrait dire quasiment une chose comme ça. Hein.
Oui, en Afrique de l'Ouest, on continue d'expliquer que les femmes ont recours à différentes pratiques, on va dire magiques, pour attirer les hommes ou pour fidéliser les hommes. Et donc elles vont utiliser différentes substances dans la cuisine, là encore, hein, ça passe par la cuisine.
Pour rendre leur mari fidèle. Hein.
Pour rendre leur mari fidèle. Ce sont des récits qui circulent, ouais. Ce sont des pratiques effectivement avérées par ailleurs.
Mais ça marche vraiment ?
Avérées, ce sont des pratiques...
Observées, mais est-ce que le résultat est avéré
observé.
Aussi ?
Le résultat n'est pas avéré.
Ah, quel dommage.
Mais en fait, ce qui est intéressant là encore, c'est ce que ça renvoie de ces récits, ce qui renvoie de l'idée que les hommes se font du pouvoir féminin. Les hommes racontent entre eux que les femmes vont utiliser aussi ce qu'on appelle des excréta, hein, c'est-à-dire des substances produites par le corps humain, et notamment tout ce qui concerne le sang menstruel et les représentations du sang menstruel, qui est associé parfois au poison. Donc là, on est vraiment dans la représentation du corps féminin. Assez universel, hein, mais qui se traduit par des croyances de ce type. Ouais.
Franceline Marano, pour réagir.
Oui, en fait, c'est l'idée que le poison, ça n'est pas seulement une arme pour tuer, mais ça peut avoir aussi toutes sortes d'autres utilisations, et en particulier la connaissance des toxines dans les plantes, mais pas seulement, des venins aussi, ça a mené à développer des médicaments qui sont utilisés de façon très large actuellement, mais dès le Moyen-Âge, il y avait
donc
déjà... Il y avait déjà cette approche avec des extraits de plantes et qui dont on ne savait pas quel était le principe actif, alors que maintenant on sait comment ça agit. Mais à l'époque, toute la pharmacopée qui s'est développée pendant, disons, plus de 1000 ans, même avant, puisque déjà dans l'Antiquité, on utilisait bien sûr les plantes pour soigner. Donc il y a les deux aspects qui sont traités dans l'exposition.
C'est ça, c'est un peu le paradoxe du poison.
Le poison comme une arme, comme pour tuer. Et mais aussi qui peut conduire au développement de médicaments. Et on a des médicaments qui sont très puissants actuellement, par exemple des anticancéreux qui viennent de plantes. Je pense aux extraits d'ifs, le Taxol qui permet de soigner des cancers de façon très efficace, la colchicine extraite de la colchique. Enfin, vous avez des quantités d'exemples de ce type, donc de poisons qui ont, parce qu'on a pu les maîtriser et surtout maintenant mieux connaître leurs mécanismes d'action, donc au niveau des organismes et en particulier au niveau cellulaire, qui servent comme médicaments. Et il y a des recherches très importantes qui se font aussi, donc on parlait d'anthropologie, d'ethnologie, en ethnopharmacologie, en allant chercher auprès des
peuples qui ont la maîtrise et la connaissance.
De nouvelles, disons, substances qui peuvent avoir des applications.
Bon. Julien Bondaz.
Oui, effectivement, un certain nombre de substances actives ont été découvertes dans les plantes utilisées pour les poisons de chasse et les poisons de pêche. C'est aussi un usage important pour la pêche. Et puis, cette notion de vénénum, elle fait penser à la notion de pharmacone aussi. On a parlé de pharmacopée, mais la racine grecque renvoie bien à cette idée d'ambivalence de ces substances qui peuvent être positives ou négatives, selon notamment la dose. Et quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses langues à travers le monde aussi, l'ambivalence entre le principe matériel qui permet d'expliquer l'empoisonnement et quelque chose qui est plus de l'ordre de l'immatériel. Et là, on va du côté de la sorcellerie, c'est-à-dire que dans de nombreuses langues, le mauvais sort et le poison sont désignés par le même mot. Tout comme le médicament.
Allez, encore un petit peu de poison dans le cinéma, une petite dose avec James Bond contre Dr. No.
Je parie que je sais plus de choses que vous.
Est-ce que quelqu'un vous a aidé à Kingston?
Il y avait un homme, le propriétaire de notre logement. Et il m'y a laissé quelques mois sans le payer. Il est venu une nuit dans ma chambre. Vous savez, je l'ai griffé au visage. Mais lui, il était très fort.
Et que s'est-il passé après ça?
J'ai mis une veuve noire, l'affreuse araignée, sous sa moustiquaire. Une femelle, elles sont pires encore. Il en est mort au bout de 8 jours.
Voilà, et tout ça dit avec une charmante voix, Franceline Marano, donc utilisation par exemple d'animaux pour empoisonner. Alors, les poisons aujourd'hui, cette exposition aux toxiques, c'est là-dessus que se termine l'exposition d'ailleurs à Lyon. Ça, c'est un vrai problème de santé publique aujourd'hui, parce qu'on utilise justement des produits dont on ne connaît pas véritablement les effets à moyen ou à long terme.
Oui, effectivement, ça c'est ce qu'on pourrait appeler les poisons modernes, mais en fait c'est plutôt les polluants. On utilise plutôt ce terme de polluants environnementaux, donc de résidus dans l'alimentation, et qui sont alors là directement liés au monde moderne, à l'agrochimie, aussi au fait que dans les villes il y a les voitures, etc. Tout cela, ça fait qu'on est soumis à des cocktails, comme on le disait tout à l'heure, très importants, de substances qu'on inhale, et puis aussi tous les cosmétiques qu'on utilise et qui peuvent aussi contenir
des substances. Le maquillage, par exemple.
Ah bien, le maquillage, c'est un des aspects qui est traité dans l'exposition et qui est tout à fait intéressante parce que, en fait, dès l'Antiquité, les femmes se maquillaient, mais il y avait déjà des produits toxiques dans les maquillages.
Et là,
dans le cadre des maquillages modernes,
avec les nanoparticules,
on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ça soit toxique, mais enfin, il peut y avoir quand même des effets sur certains, tout au moins. Mais l'histoire du maquillage avec les maquillages au plomb, et la céruse, qui a été utilisée jusqu'au XVIIIe siècle, est tout à fait intéressante. Les femmes se mettaient du plomb une substance au plomb sur le visage.
D'où quelques problèmes d'intoxication également tout au long de l'histoire.
Voilà,
cette exposition Venenum, c'est au Musée des Confluences et c'est à Lyon. Vous avez jusqu'au 7 janvier prochain pour y aller, mais profitez-en pour découvrir ce nouveau musée. Franceline Marano, merci beaucoup. Faut-il avoir peur des nanos? C'est chez Buchet-Chastel. Et puis Julien Bondaz, à la rentrée aux éditions du CNRS, l'offrande de la mort sur une affaire de cadeaux empoisonnés. Merci beaucoup à tous les deux.